Radio Stardust.
Morning edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Les patients viennent ici avec leur autorisation. Vous payez pour un traitement, pas pour un nombre de grammes. C'est 370 shekels, ça fait un peu moins de 100 euros.
Et le nombre de grammes, c'est du cannabis thérapeutique. Nous sommes en Israël. Le cannabis thérapeutique, vous le savez, arrive en France bientôt pour une expérimentation d'abord. Ce qui nous a donné envie d'aller voir là où on le cultive, on le vend et on le prescrit. Et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars et Amélie Perrier. Vous l'avez entendu en Australie, aux Philippines et en Algérie avec une histoire incroyable. 18h50, l'Europe, on l'aime ou on la quitte. Et puisqu'on parle beaucoup d'Europe ce soir avec le débat France Inter et France 2 des têtes de liste, on ira voir ce que disent les dernières projections de ce fameux Parlement européen. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four qui revient sur le Rwanda où Emmanuel Macron préfère ne pas aller. On vous racontera pourquoi et ce que ça veut dire. Avant cela, c'est en Iran que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Elle s'appelle Nasrin Sotoudeh, elle est avocate, elle est iranienne, elle est infatigable, défenseuse des droits de l'homme et surtout de la femme. Elle est prix Sakharov 2012. À l'époque déjà, elle n'avait pas pu aller chercher son prix puisqu'elle était en prison. Elle y restait de 2010 à 2013. Elle est à nouveau emprisonnée depuis juin dernier et nombreuses sont les organisations qui demandent sa libération. Le Conseil National des Barreaux fait partie de ceux qui demandent cette libération, qui fait signer même une pétition qui a son portrait sur les murs à l'extérieur. Bonsoir Christiane Feralschul.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du Conseil National des Barreaux. Vous êtes la dernière organisation qui a demandé sa libération. Il y en a eu beaucoup d'autres avant vous. Évidemment, on rejoindra Zadekian qui nous attend au téléphone dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Christiane Feralschul, quelle est la condamnation de Nasrin Sotoudeh? Parce que le régime, qui aime bien avoir cette sorte de cynisme, cumule les peines pour en arriver à un total additionné à 38 ans.
Un total de 38 années de prison et 148 coups de fouet, donc une peine qui revient à une condamnation
à
mort,
elle a 55
une
ans,
peine totalement barbare. Il y a eu ce cumul année après année, donc cette condamnation nous paraît à la fois effroyable et profondément injuste, puisque c'est au titre de sa profession, c'est pour avoir exercé sa profession qu'elle est condamnée, et c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés, la profession entière est mobilisée autour de cette demande de libération que vous évoquiez
et
à l'instant.
On va revenir sur les femmes qu'elle défend, Nasrin Sotoudeh. Rappelez aussi quand même avant Christiane Feralschul qu'elle n'a pas voulu faire appel, parce qu'elle juge de toute façon que à quoi ça sert, puisque le tribunal de toute façon est injuste en fait.
Elle a refusé parce qu'on lui imposait de choisir parmi 20 noms d'avocats qui ont été choisis par l'État, et la liberté de choix de l'avocat fait aussi partie de cette injustice. Chaque citoyen a besoin d'être défendu, doit pouvoir accéder à un avocat, doit pouvoir librement le choisir, et lui doit pouvoir librement s'exprimer et porter la parole de la personne qu'il défend. Donc c'est vraiment ça dépasse vraiment la profession pour se poser la question et alerter sur le droit du citoyen à l'avocat.
Elle sait à chaque fois les risques qu'elle prend, cette femme, et c'est ça qui la rend d'autant plus courageuse, en fait. Elle sait quand elle sort en 2013, parce qu'elle continue à ce moment-là à défendre des femmes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ses conditions de détention et surtout de l'état de son moral, en fait? Qu'est-ce qu'on sait de tout ça?
Je pense qu'elle reste courageuse. On a peu d'informations. On peut imaginer que sur le plan moral, c'est extrêmement difficile. Elle tient le coup, à l'évidence. Elle n'en est pas à sa première condamnation, vous l'avez dit et rappelé. Donc, sur les conditions, elle est très isolée. Elle a eu le droit, très récemment, elle a reçu la visite de ses enfants. Mais c'est sans doute sous la pression, justement, de toutes ces actions qui sont menées. Mais elle est très isolée. Et lorsqu'on obtient des informations, on sait que la situation est globalement très difficile. On sait aussi qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Je pense que c'est important de le rappeler. Mais ce sont des conditions extrêmement sévère.
Vous le disiez, il y a eu beaucoup d'appui, beaucoup de pétitions, beaucoup de choses qui ont été signées. C'est l'une des choses qui lui a permis de sortir de prison en 2013. D'ailleurs, la fois précédente, puisque la peine a été transformée en libération conditionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous avez cet espoir-là, que ça marche pour une femme comme Nasrin Sotoudeh quand des gens comme vous ou d'autres essayent d'appuyer? Ou est-ce que pour l'instant, vous avez l'impression quand même qu'on est dans le coup d'épée dans l'eau?
Non, je pense que la sensibilisation du public, mais aussi les actions, l'importance, le nombre de signatures sont autant d'éléments qui vont permettre de faire pression. Oui, je pense que nous sommes dans cette machine. On ne s'est pas limité à la pétition. Mm-hmm. Nous avons écrit au président de la République qui a d'ailleurs eu quelques actions. Il n'a pas répondu à notre lettre, mais
je pensais même que vous alliez le rencontrer. Et puis finalement, non, en fait.
J'ai rencontré son conseiller diplomatique. D'accord. Je sais que la lettre lui a été transmise. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées. Je sais que des parlementaires se mobilisent. Nous avons également d'autres barreaux à l'étranger. Mes homologues à l'étranger sont mobilisés. Donc, on voit bien qu'il y a un retentissement au plan international et une volonté collective de pouvoir accompagner. Et l'objectif est évidemment de la sortir de là.
Alors, pourquoi elle se battait, Nasrin Sotoudeh? Qu'est-ce qu'elle faisait ces derniers temps? On en a parlé ici dans Un jour dans le monde. Elle défendait ces femmes qui, en Iran, et très courageusement, à partir de 2017-2018, ont commencé à enlever leur voile dans les places publiques, ce qui est évidemment formellement interdit en Iran. Valérie Krova avait réussi à la rencontrer. C'était en mars 2018. C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix ici dans Un jour dans le monde. Et je voudrais vous faire réécouter ce qu'elle disait à ce moment-là et comment elle défendait, elle, l'avocate, ces femmes qui courageusement enlever leur voile.
Maintenant, nos filles disent ouvertement qu'elles sont contre le voile obligatoire. Les trois ont affirmé cela devant le tribunal. Quand le juge leur a demandé pourquoi vous vous êtes comportées ainsi, les trois filles ont répondu qu'elles voulaient exprimer leur désaccord. Elles ont demandé à la justice d'essayer d'organiser un référendum sur le voile obligatoire.
Quel argument vous allez mettre en avant pour les défendre ?
Notre premier argument, c'est que le voile obligatoire n'existe pas dans la constitution iranienne. Donc, si le code pénal islamique a obligé le port du voile, il a commis un acte contre la liberté des individus, et donc ce n'est pas légal. Une partie des femmes qui ont voté il y a 40 ans pour cette constitution étaient non voilées. À l'époque, le voile n'était pas obligatoire. Nous avons dit également au juge que s'il voulait considérer l'avis des juristes islamiques, plusieurs d'entre eux pensent que le voile n'est pas obligatoire dans l'islam. Beaucoup d'hommes croyants nous disent « le voile n'est pas dans notre priorité, ce sont les autres droits des femmes qui importent ». Mais je vous dis que celui qui a pu imposer aux femmes un mètre de tissu est capable de tout contre les femmes. C'est une question qui concerne les femmes et c'est aux femmes d'en décider et pas aux hommes.
On n'imagine pas comme c'est courageux de dire des choses comme ça quand on est en Iran. C'était en mars 2018. C'est à ce moment-là que Valérie Krova avait rencontré Nasrin Sotoudeh. Il faut quand même rappeler que deux mois après, elle était enfermée précisément pour ces raisons-là. Bonjour Azadeh Kian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous, spécialiste de l'Iran évidemment et du Moyen-Orient. On est content de vous avoir une fois de plus dans Un jour dans le monde. Je voudrais que vous nous disiez en quoi elle fait tellement peur au régime iranien Nasrin Sotoudeh pour que on ait réellement envie de la faire taire le plus longtemps possible en la mettant en prison pour si longtemps.
Écoutez, Nasrin Sotoudeh, du fait de ses combats depuis de nombreuses années, vous l'avez dit, est devenue une icône de la société civile iranienne, une société civile qui se bat, je dirais, sur tous les plans. Nasrin Sotoudeh a été avocate, elle a défendu les droits humains, elle a défendu les femmes, beaucoup de femmes, elle a défendu les défenseurs de l'environnement. Donc, effectivement, elle est très liée à cette société civile iranienne. Et vous n'êtes pas sans savoir que le régime iranien est de plus en plus contesté par cette même société qui était civile, et à part Nasrin Sotoudeh, malheureusement, il y a d'autres aussi défenseurs des droits humains, comme Narges Mohammadi, une autre femme très courageuse qui est emprisonnée, Athena Daimi, une jeune femme journaliste, blogueur, et à cela s'ajoute une douzaine aussi de défenseurs de l'environnement, dont deux femmes qui sont aujourd'hui condamnées à la peine capitale pour avoir défendu l'environnement. Et à cela s'ajoutent aussi un certain nombre de syndicalistes, hommes et femmes, qui sont emprisonnés.
Et c'est bien de rappeler, effectivement, pardonnez-moi, c'est bien de rappeler effectivement tous ces noms-là. Moi, je voudrais savoir si ce fameux mouvement des femmes qui était en train de doucement éclore en enlevant leur voile et qui faisait partie, effectivement, de cet ensemble de moments où on voyait les Iraniens de la société civile iranienne commencer à essayer de prendre le dessus. Est-ce que ce mouvement a été arrêté net, au fond, par l'arrestation de Nasrin Sotoudeh ou pas?
Non, je pense que voilà, c'est pas l'arrestation de Nasrin Sotoudeh qui a fait arrêter ce mouvement. Ce mouvement, en fait, c'est-à-dire 35 environ de jeunes femmes qui ont enlevé leur voile, ne l'oublions pas, en place publique et qui l'ont agité sur un bâton en signe justement de protestation contre le voile obligatoire. Le voile qui, en fait, depuis les 40 dernières années, est devenu le symbole du régime islamique. Donc cet acte courageux n'a pas été suivi par d'autres femmes qui, à leur tour, ne respectaient pas à la lettre le voile obligatoire, mais ne sont pas allées sur la place publique enlever leur port du voile, parce que tout le monde n'a pas envie non plus d'être emprisonné ou de subir les exactions. De ce fait, effectivement, Nasrin Sotoudeh, encore une fois, c'est une femme que tout le monde connaît, si vous voulez. Je tiens à dire que elle a été, vous savez, libérée en 2015 suite à la signature de l'accord sur le nucléaire, par aussi la pression visiblement exercée par leur Europe, et elle a été libérée. Elle aurait pu quitter l'Iran, comme beaucoup d'autres qui l'ont fait.
Et elle a choisi de rester.
Elle a préféré rester, se battre, se faire emprisonner et continuer à se battre. Donc, encore une fois, c'est une icône de la société civile. Et donc, son arrestation et cette peine d'emprisonnement à son encontre, c'est pour intimider la société civile iranienne.
Merci beaucoup, Azadeh Khan, de ce témoignage. Christine Feralchoul, effectivement, elle accompagne un mouvement, Nasrin Sotoudeh, et c'est pour ça qu'elle a voulu rester, d'ailleurs, probablement. Alors qu'elle aurait pu, c'était facile, venir ici ou ailleurs, en fait, en Europe.
Oui, d'ailleurs, l'une des condamnations prévoyait son exil, son obligation même de quitter l'Iran et de ne pas y être pendant
une vingtaine d'années. Alors que là, elle était en conditionnel, donc elle devait rester jusqu'en 2022, c'est ce que j'avais cru lire.
Encore une fois, on n'a pas toutes les précisions vraiment sur le contenu des condamnations, mais on se rend compte à travers ce qui vient d'être dit que c'est la liberté de penser qui est mise en cause. Et je pense intéressant de rappeler que le prix Sakharov qu'elle a reçu en 2012,
qui est donné par la communauté européenne,
était un prix pour la liberté de penser. Absolument. Donc elle s'est beaucoup investie dans ce genre de combat, y compris pour des journalistes. Je veux dire, ça dépasse. C'est la liberté, les libertés individuelles qu'elle a défendues.
Et on se souvient d'ailleurs qu'elle l'avait fait dire, puisqu'elle était en prison à ce moment-là. Je sais que le chemin vers la démocratie est long et difficile.
Absolument.
S'il y en a une qui est bien placée pour le savoir, c'est vraiment elle. Est-ce que, ce sera la dernière question, Azadeh Khan, il faisait allusion à l'instant, il y a eu une libération au moment effectivement de l'accord sur le nucléaire. Il y a des moments qui se sont passés avec l'Iran, qui se sont peut-être un peu détendus, chacun avait peut-être des choses à donner à l'autre. Est-ce que la situation aujourd'hui est plus complexe politiquement pour ce genre de geste selon vous, ou au contraire, est-ce que entre l'Europe et l'Iran, il y a toujours moyen de se parler pour avoir ce genre de, peut-être en tout cas ce genre de discussion autour de Nasrin Sotoudeh?
Je pense que ce type d'accord n'est pas un blanc-seing pour violer les libertés individuelles. Et je pense que le message qui doit demeurer, c'est cette liberté de défendre. Nous, notre combat, et c'est en cela qu'elle est une icône, et je pense que le terme est bien choisi, c'est une avocate courageuse, mais chacun a droit à cette défense, a droit de s'exprimer librement. Donc elle est vraiment là, c'est ce droit à la défense qui nous paraît absolument fondamental et qu'il faut rappeler. Vous savez qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont menacés à travers le monde. On le retrouve dans d'autres pays et elle est inspirante à ce titre. Elle incarne ce recul du droit de la défense à travers le monde, à travers ces avocats qui peuvent avoir peur de porter certaines défenses parce que précisément, on leur reproche non pas des actes personnels, mais d'accepter de défendre cette liberté de penser, cette liberté d'agir, ou certaines, tout simplement, certaines pensées que peuvent avoir leurs clients.
Et elle, pardon, donc Nasrin Sotoudeh n'a pas peur, et c'est pour ça qu'elle est en prison, on espère évidemment pour le moins longtemps possible. Le Conseil national des barreaux, en tout cas, essaye de la sortir de là. D'autres aussi, Christiane Feral-Schul, merci beaucoup.
Merci.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Israël, qui pratique depuis longtemps le cannabis thérapeutique. On ira voir, puisque des experts français vont voir aussi comment ça marche là-bas pour exporter les meilleures idées. On verra donc comment ça marche et ce sera l'escale reportage. Sous les radars et Amélie Perrier avec cette histoire algérienne incroyable. Là-bas, les manifs sont calmes, elles sont festives. Un homme a voulu y mettre le désordre depuis Londres. Eh bien, il a été arrêté, figurez-vous. Et on vous raconte cette histoire, 18h50, l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, avec Angélique Boin qui, justement, en ce jour de grand débat télévisé sur les élections européennes en France. Angélique qui nous montrera en quoi le Parlement est en train de se recomposer intégralement. Le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Les commémorations au Rwanda, c'est maintenant 25 ans après le génocide et un rôle de la France qui est toujours source de tracas entre nos deux pays.
Et pourquoi le Rwanda, 25 ans après, attend des excuses de la France? On essaiera de comprendre, des excuses qui ne viendront pas ce week-end.
Et ce sera tout à l'heure à 18h55. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Détroit. Aux États-Unis, voici les raconteurs. Now that you're gone. Les raconteurs sur France Inter. Now that you're gone, Amélie Perrier est là sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimakio Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, l'Australie sort l'artillerie lourde contre les contenus violents sur le web.
Et surtout contre les réseaux sociaux, accusés de relayer les messages de haine. L'exemple de Christchurch, la diffusion directe sur Facebook de la tuerie dans les mosquées de Nouvelle-Zélande a révulsé beaucoup et donné un argument supplémentaire au pouvoir en Australie pour faire passer sa loi. Écoutez le Premier ministre Scott Morrison juste avant l'adoption aujourd'hui du texte. Alors la loi sur les réseaux sociaux, sur le point de passer au Parlement, appelle ces entreprises à leur responsabilité. Elles ont la responsabilité, quand elles mettent ces plateformes sur l'espace public, d'être sûres qu'elles ne serviront pas d'armes aux terroristes. Le Parlement a donc adopté ce matin la loi. Cette loi, elle prévoit 3 ans de prison pour les dirigeants des réseaux sociaux s'ils ne procèdent pas au retrait rapide des contenus illicites, violents, haineux, terroristes. Et Facebook, Twitter ou YouTube encourt des milliards de dollars d'amende, en fait 10% de leur chiffre d'affaires annuel. La loi est passée en un temps record au Parlement. Et si Scott Morrison montre autant les muscles, c'est que le Premier ministre australien est en campagne pour sa réélection. Il vient aussi de faire passer son budget cette semaine, à grand renfort de clips sur les réseaux sociaux.
Well, g'day, I'm here with the Treasurer, and he's delivering his first budget. And it's going to be a cracker. We are back in the black. How are you feeling, Josh?
Well, thanks, PM.
Voilà, back in the black, c'est le slogan de Scott Morrison. Cela veut dire que les finances du pays sont revenues dans le vert. On n'a pas tout à fait le même code couleur. Hein. Un budget excédentaire pour la première fois depuis 12 ans grâce à la croissance robuste. Alors le chef du gouvernement de centre droit annonce des cadeaux en pagaille, des baisses d'impôts, des investissements pour les routes, les ponts, les ports. Cela suffira-t-il? Le gouvernement conservateur est à la traîne dans les sondages. Ultime arme, la date de l'élection. A priori, c'est le mois prochain, mais elle n'est pas encore fixée. C'est au Premier ministre de l'annoncer et la durée de la campagne, là aussi, va se révéler une arme stratégique pour rester au pouvoir.
Et dis donc, sinon, est-ce qu'ils ont un parti vert et auquel cas, de quelle couleur est ce parti
vert? Alors là, vraiment, il y a des daltoniens dans ma famille, je ne vais pas me prononcer.
Non, alors voilà, allez, des réseaux sociaux qui aussi, parfois, Amélie, permettent de faire taire les haineux.
Ouais, c'est l'histoire d'un Algérien, Toufik, qui poste une vidéo de lui dans la chambre de ses enfants, exemple parfait de ses propos que l'on voudrait interdire. Alors, pas besoin de vous diffuser l'intégralité, hein, mais pour résumer, là, il appelle à jeter de l'acide sur les manifestantes, les femmes qui descendent dans la rue en Algérie pour demander la fin de l'ère Bouteflika. Ce qu'il n'imaginait peut-être pas, c'est que de nombreux Algériens, comme dans les cortèges, refusent les débordements, la haine et les casseurs. Alors, une grande mobilisation a permis, sur les réseaux, d'identifier ce Toufik, de trouver ses coordonnées. Il habite près de Londres, on a identifié même la plaque d'immatriculation de sa voiture. Ça a permis de le dénoncer aux forces de l'ordre et de porter plainte. Les autorités britanniques et françaises s'emparent du dossier. L'homme s'est excusé, mais trop tard. Il va devoir maintenant répondre de ses propos devant la justice.
Et on termine aux Philippines avec une battante et même une combattante.
C'est une star des arts martiaux, Maggie Ochoa.
Hi, I'm Maggie Ochoa. I'm a jiu-jitsu fighter under the Jiu-Jitsu Federation.
Salut, je suis Maggie Ochoa, dit-elle ici. Je fais du jiu-jitsu au sein de la Fédération des Philippines. Je combats pour la gloire de Dieu, dit-elle, et je combats pour en finir avec les abus sexuels sur les enfants et l'exploitation commerciale sexuelle ici aux Philippines. C'est très sérieux, Fabienne. Maggie Ochoa, oui. Elle ne s'est pas contentée de ses titres de championne. Aujourd'hui, elle apprend l'autodéfense aux victimes. Le pays est une plaque tournante du tourisme sexuel, pédophile bien souvent. On estime entre 60 000 et 100 000 le nombre d'enfants pris dans ces réseaux de prostitution. Alors les méthodes de Maggie ne sont pas seulement des techniques pour se défendre, mais aussi un moyen de retrouver la confiance et l'estime de soi. La méthode, elle est contestée. Les sceptiques craignent des traumatismes supplémentaires pour les victimes avec ces corps à corps pas évidents, même sur un tatami. Mais d'autres expériences similaires ont fait leurs preuves dans le monde. La championne olympique de judo américaine Kayla Harrison, victime des abus sexuels de son entraîneur, a ouvert une fondation. Ou encore la jordanienne Lina Khalifeh, ceinture noire de Taekwondo, a pris l'autodéfense à des milliers de femmes dans le monde.
Eh ben, elles ont bien raison. Merci beaucoup, Amélie Perrier, sous les radars tous les jours.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est donc en Israël que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, Israël qui connaît bien le cannabis thérapeutique, on le sait. Elle fait mieux que ça. D'ailleurs, elle le cultive. Et aussi, bien sûr, elle le met sur des ordonnances. Des experts français sont venus voir à quoi ça ressemble, tout ça, précisément parce que l'Agence du médicament a donné son feu vert en décembre dernier. Bonsoir, Véronique Julia.
Bonsoir, Fabienne.
Et vous aussi, Véronique, vous avez été voir comment ça se passe au quotidien. Et voici ce que ça donne.
צומת גבעת התחמושת העלון דרום, חצה מכיוון מערב למזרח.
En plein cœur de Tel Aviv, un magasin pas comme les autres. Ici, on distribue des gouttes, des gélules, des cigarettes roulées de cannabis à des patients traités pour un cancer, souffrant d'épilepsie ou de maladies chroniques. Sous l'œil de vigile et de caméras de surveillance, chacun prend sa place dans la file. Mayan Weisberg représente l'enseigne Tikkun Olam, l'un des principaux fournisseurs en Israël.
Les patients viennent ici avec leur autorisation et leur carte d'identité. Sur l'autorisation, c'est marqué combien de grammes ils peuvent prendre et sous quelle forme. Les patients viennent une fois par mois, c'est une prescription mensuelle et le prix est fixe. Vous payez chaque mois pour un traitement, pas pour un nombre de grammes. C'est 370 shekels, quelle que soit la dose, ça fait un peu moins de 100 euros.
Parmi les patients dans la file, Mayan, 26 ans, elle est soignée, elle, pour la maladie de Crohn, une inflammation chronique des intestins.
Avant, j'avais des pertes de poids, beaucoup de douleurs, pas d'appétit, je ne pouvais pas travailler ni faire mes études. On m'a donné des traitements standards, ça ne marchait pas, et les remèdes contre la douleur n'étaient pas bons pour ma maladie. Quand j'ai commencé le cannabis, tous mes symptômes ont disparu, j'ai repris du poids, j'ai pu reprendre le boulot et finir mon diplôme.
En Israël, 45 000 patients sont traités au cannabis, mais il n'est utilisé qu'en dernier recours. Pour s'en voir prescrire, il faut d'abord avoir démontré que les médicaments conventionnels sont restés sans effet. Depuis 5 ans, Michael Dor est l'homme chargé du cannabis thérapeutique au ministère de la Santé. C'est à lui qu'on demande l'autorisation d'en prendre.
15 médecins travaillent avec moi, on a entre 300 et 500 demandes par jour pour des traitements. On dit oui dans 90% des cas. 40% des patients concernés sont des malades du cancer, on leur donne du cannabis et ils se sentent mieux. Ils changent même d'apparence, mais ça ne soigne pas le cancer, pas encore en tout cas.
Installée à une cinquantaine de kilomètres de Tel Aviv, la famille French estime que sa vie a complètement changé avec le cannabis. Le fils aîné est un ado qui en prend depuis maintenant 2 ans. Pour son père Jonathan, comme pour sa maman Debbie, c'est le jour et la nuit.
24 à 48 heures après la prise de ces gouttes de cannabis, Henri a complètement changé. Avant, il rentrait de l'école, malheureux, angoissé, stressé. Quand sa routine changeait, ça lui prenait 2 jours pour s'y habituer. Il allait dans sa chambre, il était furieux, il se grattait la poitrine. Le cannabidiol, le CBD, a changé tout ça.
Ce n'est pas non plus un miracle. L'autisme est toujours là, mais c'est clair que ça leur permet de sortir de leur bulle, ça ouvre une porte.
Et pourtant, pour l'autisme, rien n'est encore scientifiquement prouvé. Le pédiatre Adi Aran travaille avec des enfants épileptiques et autistes depuis de nombreuses années. Les preuves sont plus avancées, dit-il, pour l'épilepsie.
On le donne aux enfants qui ont une épilepsie sévère. Mais pour l'autisme, je ne le donne que quand les parents me le demandent. Je ne le propose pas encore, ce serait prématuré. C'est vrai qu'en Israël, il y a un engouement pour l'usage du cannabis dans l'autisme et ça change la vie de beaucoup de familles. Il y a des études en cours et je pense que dans 2, 3 ou 4 ans, on aura des preuves scientifiques. Mais je calme les ardeurs. En médecine, il faut savoir se donner du temps.
En Israël, en tout cas, la recherche scientifique sur le cannabis thérapeutique est très active. C'est un chercheur israélien d'ailleurs, Raphaël Meshulam, 89 ans aujourd'hui, qui a pour la première fois isolé le THC du CBD, des principes actifs du cannabis dans les années 60. Aujourd'hui, la relève est assurée par le biologiste Dedi Meri à l'université Technion d'Haïfa. C'est un chercheur en pointe, mais qui reste très modeste, car d'après lui, tout reste à faire. Le cannabis est une plante bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Nos connaissances sont encore très basiques. Dans la plupart des cas, je ne suis pas capable de dire au patient ce qu'il doit prendre. On doit faire beaucoup plus d'essais cliniques, de recherches et collecter beaucoup plus de données pour apprendre. Aujourd'hui, dans mon labo, j'ai 700 variétés de cannabis différentes. Elles ont des principes actifs différents. Le THC et le CBD ne sont que 2 de ces composés. On avance encore un peu à l'aveugle.
La définition de la dose fait débat, elle aussi. En Israël, le cannabis récréatif reste une drogue et les autorités médicales redoutent le marché noir. Les quantités autorisées sont donc volontairement limitées, comme le précise Michael Dor, l'homme du ministère.
Je pense que 90 grammes par mois est un maximum, c'est quand même 3 grammes par jour. D'après la police, 20% du cannabis médical finit sur le marché noir. Pour un malade qui ne travaille pas, ça peut être une tentation.
Cette réglementation exaspère en tout cas Dana Baron. Elle souffre d'une maladie génétique et représente les patients traités au cannabis en Israël. Dana a des conflits réguliers avec le ministère.
Beaucoup de patients sont obligés de gérer un dosage insuffisant. Le docteur leur avait dit 50 grammes par mois. Le ministère n'a accepté que 40 grammes. Donc 5 jours avant la fin du mois, ils n'ont plus de traitement. Les douleurs reviennent, ils ne peuvent plus marcher. On nous accuse d'utiliser ce cannabis pour le vendre. Ça fait 15 ans qu'on en prend en Israël. Je ne connais personne qui ait été envoyé en prison pour cela.
Donc en fait, c'est pas le paradis en Israël.
Non, il y a encore un écart entre les besoins des patients et ce que le ministère autorise. Désolée de doucher votre enthousiasme.
Allez, la suite de cet enthousiasme douché, mais d'autres choses encore avec Véronique Julia. Ce sera en longueur dans le magazine Interception sur France Inter dimanche, donc à partir de 9h10. Merci Véronique. Oh, the girl from Ipanema. Eh bien, qu'elle s'installe. Tiens, on prépare la suite dans Un jour dans le monde. Astrid Gilberto.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes
le Brésil et Astrid Gilberto dans Un jour dans le monde, mais c'est à Bruxelles que nous allons.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe, celle qu'on aime ou qu'on quitte. Premier débat ce soir des têtes de liste françaises pour ces élections européennes du mois de mai. On y reviendra très longuement tout à l'heure entre 20h et 21h. Mais il y a aussi beaucoup à dire sur le Parlement de Bruxelles. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
En direct depuis Bruxelles avec nous. Comme tous les jeudis, on va le rappeler rapidement. Angélique, d'abord nous c'est le 26 mai qu'on vote. Hein, c'est toujours bon à savoir.
À rappeler.
Et à rappeler, exactement. Et au Parlement, on s'attend à une recomposition du paysage politique. Que disent les sondages en fait ?
Eh bien, en fait, deux fois par mois, le Parlement publie ici des projections en siège, projections qui se fondent sur une compilation de sondages réalisés en fait dans chaque État membre. Alors, c'est évidemment à prendre avec des pincettes, Fabienne, mais c'est une photo toujours assez intéressante à regarder. Ce qui est frappant et qui recoupe d'ailleurs les analyses des politologues, c'est l'affaiblissement annoncé des deux principaux groupes politiques européens, le PPE, la droite d'inspiration démocrate chrétienne, et le Parti socialiste européen de gauche. Rappelons qu'à Strasbourg, les partis nationaux se regroupent par affinité politique. LR siège par exemple au PPE, le PS au PSE. Alors, premier enseignement de cette projection, eh bien, il faut s'attendre à un plus grand morcellement du Parlement sur lequel régnaient en quelque sorte jusqu'alors ces deux partis. Aucun des deux ne conserverait plus de 200 sièges sur 705. La droite en a actuellement 217, en perdrait une trentaine. La gauche resterait le deuxième groupe, mais en perdrait une cinquantaine environ sur ses 187 actuels. Le troisième groupe aujourd'hui, c'est le groupe souverainiste ECR, mais sauf rebondissement et élection au Royaume-Uni, mais on peut s'attendre à tout. Oui. Il va être chamboulé, hein, ce groupe, avec le départ des eurodéputés britanniques conservateurs. Du coup, eh bien, le groupe ADLE, qui changera sans doute de nom, celui des libéraux et des centristes, quatrième force politique, pourrait passer troisième. Les libéraux pourraient voir grossir leur rang, plus avec l'arrivée des élus La République En Marche. C'est le groupe dans lequel siège le Modem actuellement. Ils peuvent espérer entre 90 et 100 sièges. Les autres groupes, écologistes, de gauche radicale, d'extrême droite, obtiennent dans ces projections entre 30 et 50 sièges. Mais c'est pas très parlant, soyons honnêtes, car ils sont très morcelés. Puis les alliances devraient forcément évoluer dans la prochaine mandature.
Ça fait partie vraiment des choses dont on parlera tout à l'heure entre 20h et 21h. Parce que, Angélique, on s'attend évidemment à une forte poussée des partis populistes, les eurosceptiques, les anti-migrants.
Oui, car ces partis, vous le savez, ont déjà bien creusé leur sillon dans les États membres depuis la crise des migrants 2015-2016, et ça devrait se sentir dans le futur Parlement. Il y a le FPE autrichien, le Rassemblement National, bien sûr, la Ligue du Nord, la AfD allemande. Ces partis n'ont jamais réussi à se réunir en un groupe commun à Strasbourg, mais leur grande ambition du moment, c'est d'y arriver. Marine Le Pen se dit convaincue que l'alliance des eurosceptiques pourrait, je la cite, mettre un coup d'arrêt à l'Union en devenant majoritaire. C'est vrai que si numériquement, si tous les partis extrême droite, eurosceptique et même de la droite traditionnelle qui se sont radicalisés ces dernières années, si ces partis se regroupaient, ils deviendraient sans doute la première force ici. Mais là, les politologues insistent tous, s'ils sont sur une même ligne politique concernant les migrants, sur les autres sujets, la question russe par exemple, ou les fonds structurels, ils restent en fait très divisés. Le chef de file de l'extrême droite allemande aux élections européennes a reconnu lui-même aujourd'hui que ce sera très difficile de peser dans le futur Parlement. Même si nous entrons en force, dit-il, nous ne pourrons rien seuls. Il faudra faire rien seul, a-t-il déclaré, en ajoutant, faudra faire des compromis. Et puis leur poids pourrait aussi évoluer selon ce que fera Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est suspendu temporairement du PPE. Mais il a annoncé qu'il verrait après les élections où il ira siéger s'il ne rejoint pas une nouvelle alliance de partis.
Voilà, il a de quoi faire un peu de chantage. Encore un mot, Angélique, sur les candidats, il y a quelques surprises quand même.
Oui, on a pris la candidature par exemple de Nicolas Barnier, 33 ans, le fils de Michel Barnier, le négociateur du Brexit, mais pas en France. Il figure sur une liste belge, celle du Parti libéral francophone du Premier ministre Charles Michel. En piste également l'ex-député Louis Giscard d'Estaing, notre fils, de l'ancien président cette fois. Il est sur la liste UDI conduite par le président du mouvement, Jean-Christophe Lagarde.
Angélique Boin en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup et j'en profite pour rappeler qu'on va parler de tout ça plus longuement tout à l'heure, entre 20h et 21h, comme une sorte d'apéritif juste avant le premier grand débat des têtes de liste françaises sur France 2 et France Inter. Merci Angélique, à très vite.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le Rwanda s'apprête à commémorer ce week-end les 25 ans du génocide Tutsi. Emmanuel Macron était invité. Il n'y va pas. La question de la responsabilité française dans le génocide reste une source de contentieux entre les deux pays. Et pour nous aider à comprendre pourquoi vous avez choisi de regarder le sujet du point de vue rwandais.
Alors il faut d'abord mesurer l'immensité de la cicatrice. Elle est à l'image de l'ampleur de la tragédie. Plus de 800 000 morts, rappelons-le, en l'espace de 3 mois et demi, entre avril et juin 1994, essentiellement des Tutsis, mais aussi des modérés Hutus. Le pays s'est reconstruit économiquement d'une façon dynamique, mais ça n'efface pas le passé. Les souvenirs sont présents dans la vie quotidienne des Rwandais. Les lieux des massacres sont là, sous leurs yeux chaque jour, et de nombreux procès restent en cours devant les tribunaux. Ça va plus loin. Dans l'esprit du pouvoir rwandais, du président Tutsi dit Paul Kagame, le risque d'une résurgence de la violence ethnique n'a pas disparu. Et la situation dans le Burundi voisin, au sud, vient le rappeler. Le Burundi, lui aussi, avait été frappé par la tragédie, 300 000 morts. 25 ans plus tard, la dérive de son leader, Pierre Nkurunziza, inquiète. On voit réapparaître des milices de jeunes Hutus et des décomptes sur la composition ethnique des agglomérations. Le tout dans la plus totale indifférence de la communauté internationale. Donc le président rwandais a forcément cela à l'esprit. L'expérience du génocide lui a appris à ne pas compter sur les puissances étrangères pour éviter les massacres et ce raisonnement conforte sa gouvernance autoritaire. Donc en un mot, au Rwanda, 25 ans après, le génocide est encore là et on ne peut pas comprendre l'attitude rwandaise vis-à-vis de la France si on ne mesure pas ça d'abord.
Et alors donc, quel est le reproche qu'on fait aujourd'hui à la France ?
Il y en a plusieurs. Commençons par l'opacité et cette critique n'est guère contestable. La France cache des choses. Elle se refuse à ouvrir totalement ses archives en invoquant le plus souvent le secret défense et quand elle le fait, les archives en question sont souvent caviardées, parcellaires. Le deuxième reproche, c'est la politisation des processus judiciaires sur le sujet depuis 25 ans en France. D'un côté, il y a d'abord eu l'enquête à sens unique du juge Bruguière sur l'attentat qui avait déclenché le génocide le 6 avril 1994, le tir de missile pour abattre le président Hutu Habyarimana. Le juge français a toujours privilégié l'hypothèse que la rébellion Tutsi de l'actuel président Kagame était à l'origine de l'attentat. Il a fallu attendre 2012 pour qu'un rapport balistique établisse l'inverse. Ce sont probablement des extrémistes Hutus qui ont tiré. D'un autre côté, la justice française s'est montrée lente, très lente, à poursuivre les Hutus accusés de génocide réfugiés sur notre sol. La première condamnation n'a eu lieu qu'en 2014. Et aujourd'hui encore, il y a encore 25 dossiers en cours d'instruction à
Mais
Paris.
Mais le Rwanda, Jean-Marc, va plus loin. Il accuse la France d'être en partie coupable du génocide.
Oui, c'est-à-dire que du point de vue rwandais, cette opacité et cette lenteur judiciaire visent depuis 25 ans à dissimuler la responsabilité de Paris dans la tragédie. Et les témoignages, les documents laissent penser qu'effectivement, la France a au moins fermé les yeux sur les événements parce qu'elle cherchait à protéger le pouvoir Hutu tout en place à Kigali. Le récent témoignage du général Varay, révélé par la cellule d'investigation de Radio France, démontre que l'état-major était au courant, bien avant les événements, d'un risque de massacre à grande échelle. De nombreux documents attestent que la France a continué de livrer des armes au pouvoir Hutu après le déclenchement du génocide. Et enfin, il y a le drame de Bicerero. Fin juin 1994, alors que l'opération humanitaire turquoise avait débuté, l'armée française a-t-elle laissé faire un ultime massacre de Tutsi ? La question est posée. Donc on comprend mieux pourquoi, pour le Rwanda, la France est complice. En 2010, il y a donc 9 ans, Nicolas Sarkozy a été le premier à avoir le courage de reconnaître, je cite, « de graves erreurs d'appréciation de la France lors des événements ». Paris se grandirait à reconnaître avoir commis une faute politique majeure au Rwanda il y a 25 ans. Le Rwanda, on peut le comprendre, veut au moins des excuses. Emmanuel Macron avait l'occasion de les exprimer en se rendant aux commémorations de dimanche prochain. Il a choisi de ne pas le faire. On prête au président français le sentiment que l'essentiel aujourd'hui avec le Rwanda, c'est de regarder l'avenir pour bâtir avec cette économie moderne. Mais on ne peut pas regarder sereinement l'avenir tant que les comptes du passé ne sont pas soldés.
Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, on reste ensemble pour Le Téléphone sonne et un peu plus d'ailleurs aussi. À tout de suite, ne bougez pas.